Compte Complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Huzreau s'entretient avec l'ex-officiel professionnel et marqueur officiel des Expos, Michel Spinelli.
Avec Michel Spinelli, qui a été associé aux Expos pendant très longtemps, c'est quiconque a écouté, entendu parler des Expos, peut pas avoir entendu le nom de Michel Spinelli, qui était le marqueur officiel des Expos. Michel, pendant combien de temps vous avez été marqueur officiel?
J'ai été chanceux, j'ai arbitré premièrement dans la grève des arbitres en 1979.
On va en parler de ça plus tard.
Oui, mais c'est ça qui m'a donné l'opportunité de devenir marqueur des Expos. Parce que l'année suivante, Richard Griffin, qui était le relationniste des Expos, a communiqué avec moi puis m'a demandé si j'étais intéressé de devenir marqueur, lequel je connaissais absolument rien à marquer les points. Moi, j'ai été arbitre très longtemps dans ma vie. Lui, il a dit, tu parles anglais, tu parles français, puis tu connais les règlements, c'est ce qu'on recherche.
Donc, Michel Spinelli n'était pas marqueur officiel. Moi, je me souviens, dans 79, tu étais arbitre.
Oui, oui.
Mais je me souvenais pas que tu n'étais pas encore marqueur officiel.
J'avais jamais marqué de ma vie. Des fois, à la maison, je griffonnais là, en écoutant un match à la télé avec Claude Raymond puis Jacques Doucet. Mais à part de ça, je ne connaissais absolument rien dans la façon de marquer.
Bon, on va commencer avec le commencement.
D'accord.
Arbitre. Ça, on vous a connu arbitre. Michel, tu as été un an arbitre chez les professionnels. Mais on va commencer. L'intérêt pour le baseball, ça a commencé où? Est-ce que c'était présent partout chez des Spinelli?
Pas vraiment. Ça a commencé drôlement ma carrière d'arbitre. J'ai été voir le match de mon frère plus jeune que moi. On est dans les estrades, moi, mon père, ma mère. Puis mon petit frère est sur le terrain, puis là, on attend. Puis on attend, puis là, il n'y a pas d'arbitre. Fait que là, mon père, il me donnait des coups de coude, puis il dit, tu vas y aller. Mais moi, je n'étais aucunement intéressé. Je le sais, je jouais ma main, ma balle, puis je voyais comment on critiquait les arbitres. Mais là, il dit, tu vas y aller, là, tu connais ça. Vas-y, vas-y. Puis finalement, ben c'est là que la piqûre a commencé. J'avais 12 ans dans le temps, mon frère avait 8 ans, puis là j'ai commencé à arbitrer. Puis dans ce temps-là, dans les parcs, il y avait une balloune qu'on appelle pour les arbitres, une balloune pain masque, puis tout le monde se servait de la même balloune, puis tout le monde se servait du même masque.
Le balloune, là, c'est le plastron protecteur, là.
Exactement, moi je l'appelle la balloune, c'est ça qui est arrivé. Puis crois-le ou non, si je peux vous tutoyer.
Ben oui, absolument.
Oui. La balloune, je l'ai gardée pendant toutes ces années-là. Pas cette balloune-là, mais je m'en suis acheté une. Puis j'ai arbitré avec ça tout le temps, tout le temps. Même quand j'ai été à l'école d'arbitre, il y avait des gars qui arbitraient avec le plastron régulier. Puis il y en avait avec la balloune. Moi, mon professeur à l'école d'arbitre était le fameux John McSherry, qui était décédé malheureusement, ben oui. Une partie à Cincinnati, une partie d'ouverture avec les Expos.
On s'en rappelle.
Très, très triste pour quelqu'un qui l'a connu. Là,
tu sais. Ouais.
Puis là, j'ai encore la balloune, je ne l'ai plus, là, mais je veux dire, j'arbitre avec la balloune continuellement à l'école et tout. Puis là, quand j'ai réussi à graduer de l'école d'arbitre, j'ai été travailler dans la Ligue New York-Pennsylvanie.
Ça, c'est en 1971?
En 70.
70.
Oui, parce que l'année suivante, en 71, je me suis marié. Fait que, en 70, j'ai arbitré un an dans la Ligue New York-Pennsylvanie. Il y avait des équipes comme Auburn, Batavia, Jamestown. Puis, drôle de coïncidence, l'équipe Jamestown, qui était l'équipe des Expos, l'équipe filiale des Expos, il y avait deux lanceurs de Montréal, Denis McSween, puis Michel Dostaler. Deux joueurs qu'on connaissait, puis moi, ils me connaissaient aussi, ayant arbitré dans le junior auparavant. Puis là, à chaque fois qu'on allait à Jamestown, mais mon collègue d'arbitre, lui, il allait rester à l'hôtel, puis il payait son 8 ou 10 $ par soir. Mais moi, les gars, Michel et Denis, ils ne voulaient pas que j'aille coucher et dépenser 10 piastres. Eux autres, ils avaient leur appartement. Fait que moi, disons que ça restait inconnu, mais moi, j'ai été resté avec Denis et Michel dans leur appartement.
C'est sûr que c'était pas permis. Là.
C'était pas permis, mais il n'y a personne qui le savait. Il y avait que nous trois qui parlaient français. Les autres, la plupart, c'était tous des Américains. Mm-hmm. Puis même quand on partait chacun notre bord. Moi, mon conducteur, il venait me chercher, puis ça restait là. T'sais. Sauf que ces deux gars-là, c'était deux lanceurs. Puis je couche avec eux autres le soir avant, puis le lendemain, c'est Michel qui lance ou Denis le surlendemain. Fait que tu sais, mais je faisais le même seulement une des deux matchs, l'autre mm-hmm. c'était mon copain.
C'était deux, évidemment, à ce niveau-là, vous êtes deux arbitres seulement.
Hein? Deux arbitres seulement. Puis ouais. on alterne un soir l'autre. Mais c'était vraiment...
Comment vous êtes arrivé à l'école de John McSherry? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit... comment ça a marché, Michel?
L'école en elle-même, c'est l'école de Barney Derry, dans le temps. Barney Derry, il y avait lui, puis il y avait un autre... je pense que c'était Al Summers, qui avait aussi une école d'arbitre en Floride.
Si je me souviens bien, c'est un arbitre de la Ligue américaine, lui.
Oui,
hein?
oui,
c'est
ça. Al Summers. Puis après, lui, c'est... il y avait Nick Bremigan aussi, oui. un autre arbitre, que lui avait une autre école. Il y était deux ou trois qui avaient des écoles en Floride. Mais moi, il y a quelqu'un de Baseball Québec qui m'avait dit « Cette école-là semble être plus intéressante, plus de choix, puis tout. » Fait que j'ai été à l'école de Barney Derry, laquelle il y a eu 1200 applicants pour l'année que j'ai été à l'école. Dans lesquels ils en ont pris juste 60, 5% des élèves qui ont été acceptés.
Dont Michel Spinelli.
Oui, ça, j'étais vraiment honoré. Puis moi, j'étais toujours à l'école, tu sais, j'avais fini mon école, c'est-à-dire, mais je travaillais pour l'entreprise familiale. Mm-hmm. Fait que c'était facile pour moi de quitter pendant 6 semaines, parce que l'école était de 6 semaines en Floride. Mes parents étaient venus me visiter, ma copine dans le temps aussi. Puis ça a été vraiment une expérience inattendue, tu sais.
Bon, on va se parler de cette année-là, dans la Ligue New York Penn.
Oui.
C'est une ligue, ça commence au milieu du mois de juin.
Juin,
ça finit jusqu'à la fin du mois d'août, début septembre, si l'équipe fait les séries.
C'est ça.
Vous voyagez beaucoup, les distances sont quand même assez grandes. Je me souviens d'aller à Jamestown, puis il n'y a pas grand-chose autour de Jamestown. Il faut voyager de longues distances.
On voyage toujours sur la même autoroute, là, continuellement. Moi, j'étais avec un monsieur qui venait de Cleveland. Puis lui, c'était mon partenaire d'arbitrage pour toute la saison.
Donc, quand il est là en Pennsylvanie, il n'était pas très loin de chez lui.
Non, parce que lui, c'était le plus proche. Puis même, je me rappelle qu'il y avait des confrères. Lui, il était professeur d'école. Même pas professeur, il était principal d'école. Puis lui, il avait pris des congés parce que ça lui permettait, pendant la saison de balle, d'arbiter.
Ben
parce
oui.
que l'école venait de finir, puis on finissait avant que l'école commence. Fait qu'avec sa position de principal, lui... Il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. T'sais.
Est-ce qu'il faisait ça, lui, juste pour voir s'il pouvait avancer ou pour son propre plaisir?
Non, je pense qu'il faisait aussi pour voir s'il pouvait avancer, ouais. mais je dois vous dire, il avait comme peut-être 7-8 ans plus vieux que moi dans le temps. Moi, j'avais 20 ans, puis lui, pas loin de... Même, je pense qu'il avait son 30 ans.
Donc, il fallait qu'il avance vite, lui-là.
Bien, c'est ça. Mais les possibilités, surtout pour moi, comme étant Canadien... C'était encore plus difficile d'avancer dans un sport qui est considéré américain.
Est-ce qu'il y avait d'autres Canadiens ou Québécois qui
Québécois à ce moment-là, non.
Donc, Michel Spinelli n'avait pas de modèle à suivre pour.
Oui, le seul modèle qu'on avait à suivre, c'était Jim McKean. Parce que Jim, il a eu beaucoup d'avancements, puis je suis content pour lui. Il a eu une super belle carrière d'arbitre. Mais lui, ayant joué pour les Alouettes de Montréal...
Il était connu.
Il était connu, puis il y avait le push en arrière, pas d'un concessionnaire d'automobile, mais de sport professionnel. Puis ça lui a aidé sûrement à un moment donné. Mais moi, j'avais rien en arrière de moi. Mais à l'école d'arbitre, on était trois Canadiens seulement. Il y avait moi, il y avait un gars de Scarborough, Ontario, puis l'autre qui venait de la Colombie-Britannique. Les deux autres Canadiens, malheureusement, ils n'ont pas été parmi ceux qui ont été choisis pour aller dans le niveau A. Il y a plusieurs d'entre nous, je dirais, on était 60, il y en a, je pense, 22 qui ont réussi à l'école. Fait qu'il y en a 38 que non. Puis sur les 22, il y en a 4 après 2 semaines
Ah oui.
qui ont lâché. Parce qu'à l'école, c'est bien, c'est tout avec des professeurs comme Jim McKean, pas Jim McKean, mais John McSherry.
Et tout est
Puis,
planifié.
ben c'est ça, on a un horaire. Moi, j'ai même mon partenaire à l'école était Eric Gregg,
Ah
qui
oui.
a. Puis ce jeune homme-là, il est venu chez nous à un moment donné quand il habitait dans le professionnel. Je l'avais invité chez moi, puis on se fréquentait beaucoup jusqu'au moment où ce qui est la fameuse grève. Puis là, j'avais été considéré parce que j'avais accepté d'arbitrer pendant la grève. J'ai été considéré comme un scab, malheureusement. Fait que j'ai perdu toute amitié avec Eric parce que lui, il trouvait que j'avais pas fait le bon choix, mais pour moi, c'est une opportunité unique, là, tu sais.
Vous n'aviez plus l'intention de faire une carrière là-dedans à ce
Non, non,
moment-là, là.
non, non. C'était.
Racontez-moi un petit peu comment ça se passe, là, quand vous sortez de l'école, vous êtes parmi les heureux élus. Là, on vous garoche, je vais utiliser le mot, dans la jungle du baseball professionnel. Vous êtes deux avec votre partenaire,
C'est ça.
avec des jeunes qui commencent chez les professionnels. Tout est nouveau pour tout le monde, là.
Ouais, c'est très, très difficile parce que, comme je vous ai dit tantôt, on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais, les instructeurs au niveau A, là, c'est des gars qui sont très, très connaissants parce que leur devoir, c'est de bâtir une équipe puis de bâtir un joueur qui a des chances de se rendre jusqu'au majeur. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils montrent qu'ils ont de l'autorité, autant avec leurs joueurs qu'avec nous, comme
Donc,
arbitre.
un Michel Spinelli qui a 20 ans doit être capable de mettre son pied à terre face à un gérant qui a peut-être joué dans les majeures,
Peut-être.
puis
C'était pas facile. Puis comme je vous dis tantôt, sur 22 qui ont réussi à l'école, il y en a au moins 4 qu'après la première ou deuxième semaine, ils ont rappelé M. McNamara, qui était le président de la Ligue, puis ils ont dit Salutos, moi je m'en vais, là. Ils ne pouvaient pas le prendre.
Est-ce qu'il y a eu des anecdotes, quoi, amusantes ou dans cette année-là qui vous ont marqué des choses qui
Moi, l'anecdote la plus amusante d'avoir travaillé dans la New York Penn, ça a été. Ben, il y avait l'exploit de coucher avec les deux
Les
joueurs
deux.
des Expos de Jamestown, là. Il y avait ça, mais l'autre qui était pas mal différente, c'est qu'on habite à Niagara Falls. Ça, c'est encore une bonne distance, là, avec tout le trajet. On est à Niagara Falls, moi puis mon copain. Puis on fait un match à Niagara Falls, mais du côté américain. Fait que là, on arbitre notre match, tout fini. Fait que là, mon partenaire, le nom m'échappe, là, malheureusement. Il dit, on devrait aller souper là au bord du côté canadien, mais dans la grande tour. Fait que là, je dis, ben, pourquoi pas? On va aller souper là, on se paye une traite, là. Tu sais, on est là, à
Ben oui.
Niagara Falls, tu vas pas là tous les jours. Comme de fait, on s'en va là bord, on traverse les douanes, boum, on s'en va souper tout. Là, on revient pour retourner du côté américain où ce qu'on a notre chambre d'hôtel. Mais là, moi, je suis Canadien, puis ils refusent que je retourne aux États-Unis parce que j'ai pas ma carte verte. Puis ça. Puis là, je vous le dis honnêtement, là, il est 1h30 du matin, là. Puis moi, là, on me donne pas permission de traverser, là.
Votre carte verte, j'imagine, est dans votre chambre d'hôtel.
Je n'ai même
Ah,
pas.
vous en avez
Moi,
un.
j'avais pas besoin de carte verte, moi, pour commencer parce que j'avançais pas pour tout de suite. Fait que là, je travaillais juste comme officiel dans la ligue, that's it. Mais là, à 1h30 du matin, moi, j'appelle le président de la Ligue, M. McNamara. Puis là, au bout de la ligne, lui se fait réveiller à 1h30 du matin, là, c'est pas le monsieur qui est le plus de bonne humeur. Puis les mots, je vous dirai pas les mots, mais vous oui. pouvez imaginer oui. un Américain d'un certain âge qu'il se fait réveiller, là, tu sais, par un jeune de 20 ans, comme vous disiez. En tout cas, ça a brassé.
Mais vous êtes passé.
Je suis venu à bout de passé parce que lui, il a des contacts que nous, on n'a pas.
Ben oui.
Mais ça a pris une période de temps, là. Mais ça a été vraiment l'incident qui a marqué, là. J'étais pogné au Canada, ouais. je suis Canadien.
Est-ce qu'il y a des joueurs, des gérants qui ont. Qui t'a marqué pendant cette année-là?
Pas vraiment, parce ouais. que, disons, on concentrait tellement à faire un ouais. bon travail. Fait qu'il n'y a pas de joueur, entre autres, qui m'a.
Mm-hmm.
Moi, les joueurs que j'ai revus le plus ou que j'ai remarqué le plus, c'est quand j'ai fait la Coupe intercontinentale comme arbitre.
En 75 à Montréal.
À Montréal et à Moncton. À Moncton, au Nouveau-Brunswick, on avait été choisis, moi et quelques Canadiens ici.
Oui, il faut revenir à ce tournoi-là. La Coupe continentale, bon, au sein de l'équipe américaine, il y avait Scott Sanderson,
oui.
Paul Molitor, de mémoire,
exactement.
Était là. Je pense Ron Hassie. Est-ce que Ron Hassie fait partie de cette équipe-là?
D'après moi, oui.
Je pense que oui.
Oui, oui.
Mais Molitor, Sanderson, assurément.
Ah, ça, c'est sûr. J'ai arbitré la première partie au Marbre, puis c'est Scott Sanderson qui lançait. Fait que ça a été vraiment...
Tout le monde en avait peur, moi je me rappelle.
Oui, 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 il y avait une super de bonne rapide. Là, puis, mais encore là, à ce niveau-là,
mm-hmm.
c'est pas comme arbiter dans la Ligue New York Penn qui est un niveau A.
Ouais.
Eux autres, là, c'est des professionnels. Puis autant que le lanceur est professionnel, le receveur est professionnel.
Mm-hmm.
Fait que ça, comme toi, pour arbitre, en étant arbitre du Marbre, ton travail est facilité ayant un receveur, premièrement, qui ne bouge pas.
Mm-hmm.
Tu sais, lui, il est placé en arrière du marbre, puis il sait que la balle, elle s'en vient, puis il ne bouge pas. Au niveau A, les gars, ils apprennent à jouer comme receveur. Ils sautent, ils se lèvent, ils se tassent à gauche, ils tassent à droite, c'est back and forth. C'est plus difficile d'arbitrer au... Comme moi, j'ai été chanceux, on l'a dit tantôt, j'ai arbitré dans la grève des arbitres en 79. Tu sais, en arrière d'un Gary Carter, là, il faut le respecter, le monsieur, il était vraiment un des meilleurs receveurs.
Est-ce que c'est encore que le plastron ballon?
Non. Depuis ce temps-là, quand je suis revenu de la Ligue New York-Pennsylvanie, mon arbitre en chef dans la région Lac-Saint-Louis était Pete Lepage. Peter Lepage, qui a aussi été intronisé dans le temple de renommée du baseball québécois, qui a fait beaucoup, beaucoup pour le baseball mineur au niveau des officiels. Puis il était très bon, Pete, parce qu'il a fait pendant plusieurs années arbitre dans la Ligue défunte provinciale. Ça, c'était fort, cette ligue-là.
Est-ce que tu as arbitré dans cette
ligue? Non, malheureusement, okay. c'est un des regrets que j'ai. J'aurais vraiment...
Mais t'es jeune à ce moment-là
oui,
aussi.
Oui, j'étais plus jeune.
Oui.
Mais j'aurais aimé ça mm-hmm. parce que c'est un niveau de balle là, très, très fort. Il y avait des gars comme Gilles Saint-Onge de la Chine qui était là, Marotte.
Mm-hmm.
Je me rappelle le troisième but, je pense, c'était de Granby, Carlos Thorne. Il y avait les genoux, là, les jambes, comme qui faisait du cheval.
Les jambes arquées, là.
Les jambes arquées. Quel troisième but exceptionnel.
Il y avait des Québécois qui avaient joué professionnel, qui étaient revenus jouer dans la Ligue provinciale.
Et notre ami John Elias, il a lancé là-dedans, qui était... il y a eu plusieurs bons lanceurs dans ce niveau de balle-là. Puis moi, j'ai lancé quand j'étais plus jeune pour l'équipe de Dorval dans la Ligue junior. On jouait contre Onsic, Rosemont, toutes ces équipes-là. J'ai même joué contre Ron Fournier, Claude Mayotte, Pierre Ladouceur. Ça a été des joueurs contre qui j'ai joué.
On m'a dit que Ron Fournier était un des meilleurs joueurs de troisième but au Québec à ce moment-là.
Pour moi, dans le junior, c'était le meilleur.
Oui.
Ah, il était incroyable. On l'appelait l'Electrolux au troisième but. Il n'y a pas grand mal qui passait là. Il était vraiment, vraiment bon. Ayant été gardien de but, lui aussi. Fait que si quelque chose qu'il avait, il n'avait pas peur de la balle, tu sais.
Oui. On va revenir sur votre carrière professionnelle qui a duré un an.
Oui.
Est-ce que c'est ta décision, Michel, de ne pas revenir ou si c'est...
Non, je m'attendais honnêtement de poursuivre parce que j'ai pas eu beaucoup de situations qui m'ont embarrassé, sauf la situation avec notre président de ligue, là. Mais à part de ça, j'ai eu une très bonne saison. J'avais pas de plainte de personne puis tout. Mais mon but était de retourner, mais dans une ligue, un niveau un peu plus haut, qui veut dire à peu près 120 matchs par saison au lieu de 72. Puis là, quand on m'a rappelé, on m'a dit, tu retournes dans la même ligue. Je me suis dit, j'ai pas d'avancement, là, tu sais. C'est ça qui me fait que j'ai même parlé à ce moment-là à Jim McKean, parce que je le connaissais de longue date.
Oui.
Puis je lui ai dit, c'est quoi ton opinion? Ben lui, il dit, personnellement, j'aurais aimé te voir monter tout de suite. Parce qu'il y a des chances, s'il garde encore là, c'est comme agir comme bouche-trou. Puis ça, ça m'a fait de la peine. Puis, travaillant pour l'entreprise familiale, j'étais attaché aussi du côté de mon père puis mon oncle, qui était propriétaire de notre entreprise. Fait que j'ai été bien hésitant. Puis là, à ce moment-là, j'étais marié. Fait que là, j'ai demandé à mon épouse qu'est-ce que je fais. Puis nous, on était chanceux. Moi et mon épouse, on restait chez mes parents. Mon père, il avait aménagé une chambre d'en bas parce qu'il savait, si je m'en vais aux États-Unis, ma femme n'est pas pour rester toute seule, fait qu'elle va rester avec ses beaux-parents. On était tous bien organisés pour continuer. Mais la décision a été prise là, par les conseils de Jim McKean, puis il y avait quelqu'un d'autre, j'oublie son nom, quelqu'un de Barney Derry, là, dans la vice-présidence de cette gars-là, qui m'avait conseillé. Puis le mot canadien est arrivé aussi dans le portrait. You know it's an American sport. T'sais, on dit que c'est un sport américain.
Même si les expos venaient d'arriver, c'est...
C'était pas quelque chose de garanti.
OK.
Tandis que mon futur avec l'entreprise familiale que j'ai travaillé puis que je travaille encore sur demande, là, c'était pas mal difficile de dire non à mon oncle et à mon père. T'sais.
Vous avez continué d'arbitrer Michel Spinelli pendant
plusieurs années.
Même qu'on m'a dit que tu étais encore actif. Là.
Oui, j'arbitre encore deux fois par semaine. L'année passée, je faisais quatre fois semaine, mais là, je suis rendu à 75 ans. Là. Deux fois, c'est en masse. On vient juste de finir mardi soir notre dernier match de saison. Là.
Bon. Dans les années 70, il y a eu la Coupe continentale.
Oui, en 75.
En 75. Est-ce qu'il y a eu d'autres gros tournois? Parce que c'est au niveau local, junior, que tu as commencé à arbitrer.
Bien, il y avait eu, je me souviens pas de l'année, mais j'avais été choisi pour aller aux Jeux panaméricains.
Qui était où?
Au Mexique. Puis là, moi, puis justement, Pierre Lepage, ou Peter Lepage, comme on le connaît, on avait été choisis pour aller là-bas. Fait que ça, c'était un honneur, le jeu panaméricain, tout. On avait eu les billets par l'entreprise de Baseball Canada, Baseball Québec. Baseball Canada avait choisi Michel Spinelli et Pete Lepage pour aller là-bas. Fait qu'on arrive au Mexique, moi puis Pierre, puis on s'installe, puis tout. Là, on s'en va, on est pour coucher sur le site des Jeux. Mais là, c'est couché comme presque à terre. Là. C'est vraiment, vraiment...
C'était où au Mexique? À Mexico ou complètement?
Je pense que c'était à Mexico City. Oui, ça fait déjà quelques années. Là. Mais c'était à Mexico City, mais on avait un emplacement. Puis mon ami Pierre, il pesait au-dessus de 350 livres. Fait que c'est pas évident pour lui de coucher presque à terre. Fait qu'il n'y a aucun moyen que Pierre était pour coucher là. Fait qu'il a décidé qu'on couche à l'hôtel dans le centre-ville de Mexico. Mais de là, il a fallu se rendre, ainsi de suite. Mais avant, on a pris nos accréditations. Puis là, il nous explique à nous, puis aux deux Américains qui sont là en même temps, que nous, on était là comme observateurs, pas comme arbitres. Aucunement ce que les gens de Baseball Canada nous avaient dit. Là, vous allez vous asseoir dans les estrades, puis vous allez observer nos Mexicains qui arbitrent sur le terrain, puis vous allez faire des rapports, puis tout. Mais vous n'avez peut-être pas jamais rencontré Pete Lepage, mais Pete Lepage, là, il s'est fâché. Puis là, il s'est fâché, puis malheureusement, ben, on n'a pas arbitré. Puis le soir qu'il y a eu, c'est-à-dire la journée qu'il y a eu la parade de l'ouverture des Jeux panaméricains, moi et Pete Lepage, on est dans l'hôtel, puis on était prêts à regarder ça à la télé. On n'a pas participé, puis ni les deux gars américains. Fait que nous, on est parti de là, le lendemain de cette parade-là, puis on n'a pas arbitré, puis qu'on est parti, puis on s'est en allé, on a pris un avion, on s'est en allé une semaine à Acapulco. Il était tellement frustré, Pierre, là, mm-hmm. qu'il dit, on s'en va là. Mais mm-hmm. il a fallu rembourser Baseball Canada, parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas... Mm-hmm. Puis pour tous les championnats canadiens, supervisés canadiens, ben moi et Pierre, on a été suspendus pour un an. Mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé de nos ouais. Jeux panaméricains.
Il y a eu un manque de communication quelque part.
Bien, c'est sûr. Puis là, ouais. nous autres, on était peut-être à blâmer, mais on ne voulait pas être ridiculisés en disant « vous êtes observateurs ».
Ouais.
Pour moi et Pierre, on était, d'après moi, les deux arbitres les plus compétents mm-hmm. du Québec ou même du Canada si on a été choisis pour aller aux Jeux panaméricains. Puis... Il nous dit ouais. qu'on est observateur. J'ai jamais su qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains, là, mais
ouais.
nous quatre, qui est, d'après moi, plus connaissants que les gens qui ont mis sur le ouais. terrain, puis, en tout cas.
79, vous avez repris du galon au niveau professionnel. Ça ouais. s'est fait comment, cette approche-là? C'est qui vous a ben, approché?
C'est la Ligue nationale qui a approché Baseball Québec à savoir s'il y avait des officiels assez compétents pour faire les matchs des expos durant cette grève. Puis c'est là, ben, mon nom a été donné, celui à Jacques Lauzon, un autre ami à moi qui travaille dans la région Lac-Saint-Louis. Il y avait John Baird, puis il y a même eu à ce moment-là Émilien Côté.
Je me rappelle très bien, oui.
Ouais. Puis Émilien, il venait de Trois-Rivières. Fait que lui, son nom avait été donné par Jean-Marc Paradis, si je ne me trompe pas. En tout cas, là, on a eu une réunion, puis on choisit qui était pour commencer les matchs. Mais il y avait un monsieur qui venait des États-Unis, Dick Tremblay. Fait que les instructions de Hal Barlick, qui était le superviseur à Montréal pour les arbitres, Hal Barlick, il a dit, Dick Tremblay is American, etc. C'est lui qui va faire le marbre. Puis vous trois, vous allez faire les buts. Jusque-là, tout est beau. On fait un match des expos, tu sais, il faut en parler. Mais Dick Tremblay fait le premier match. Faisait quelques années qu'il n'arbitait pas, lui. Fait qu'ils l'ont sorti de la retraite. Fait qu'il fait 9 manches. C'était pas pire. Le lendemain, un autre 9 manches. Là, le troisième match, là, oublie ça, là, Dick Tremblay, il dit à Al Barlick, il a répondu pas mal sec, qu'il n'était pas pour faire un autre match au marbre.
Il avait déjà un certain âge, Dick Tremblay, c'est
ben
ça?
Ben oui, je pense qu'il était pas loin de 45 ou 46.
Puis pas tout à fait en forme?
Pas tout à fait en forme, puis il n'en faisait pas beaucoup d'arbitrage. Fait que là, oui, il avait un talent, on voyait qu'il avait déjà fait ça, sauf que 18 manches en arrière du marbre quand tu te penches pas à tous les jours. Nous autres, on arbitrait à tous les jours, là, la gang qui était là. Fait qu'après les deux parties, la première chose, Carl Barlick qui dit qui est capable de faire la marbre? Là, les trois autres, ils pointent Mike, là, tu sais, ça va être Michel Spinelli. Là, dis-moi que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit-là, là. Parce que sachant que le lendemain, c'est moi qui étais en arrière du marbre avec mon ami Gary Carter, là, tu sais. Puis Gary peut être la personne la plus gentille au monde, puis il l'était. Fait que tout ça pour vous dire, cette partie-là, j'arbitre. Très excitant, très excité. Chanceux comme je suis, 12 manches. Premier match contre les Mets, 12 manches. Moi, au début, j'ai déjà lancé dans le niveau junior. Fait que je dis à Gary Carter, qui est receveur, au début de la première manche, s'il y a une fausse balle, je lui explique en anglais, inquiète-toi pas, je vais la lancer au lanceur une fausse balle. Puis les jeunes ramassent les balles en arrière. Première fausse balle, on est à la première manche. Je viens pour prendre la balle dans ma poche de mon manteau. La poche a déchiré. Sans mentir, là, toutes les balles. J'ai 5 balles dans ma poche, toutes les balles à terre. Gary Carter se penche, ramasse les balles, puis il me dit, « Don't worry, Michel. » Je me rappelle comme hier.
Ben oui.
Fait que là, il ramasse les balles, là, il appelle le jeune homme qui s'est préposé aux balles. On lui donne ça, là, il m'en reste 5 de ce côté gauche. T'sais. La manche terminée, Gary me prend le bras, puis il me tire vers l'abri des joueurs des expos, puis il appelle Silverman. Le responsable à l'équipement.
John Silverman.
John Silverman. John Silverman s'en vient. Gary dit, fix his pocket. Dans l'espace de vous le dire, il avait cousu ça, là, bing, bing, bing. J'étais retourné sur le terrain, puis elle n'a jamais déchiré après toutes mes parties que j'ai faites au match. Mais ça a été l'anecdote la meilleure ouais. que j'ai eue.
Avez-vous un souvenir qu'il lançait pour ce match-là?
Ben, ce match-là...
Vous étiez concentré sur ce que vous aviez à faire encore
ouais,
une
mais
fois?
Si je ne me trompe pas, c'était Sanderson qui avait commencé ce
ouais.
match-là.
Les Expos avaient très bien commencé la saison.
Oui,
là. Il y avait
11 victoires sur 12 matchs que notre groupe a officié. Le seul match qu'ils ont perdu, c'était quand Steve Rogers a lancé. Puis c'était Émilien Côté au marbre. Puis Émilien, pauvre Émilien, il avait été critiqué beaucoup, beaucoup.
Je me souviens de propos
mais
de Steve Rogers.
Moi, j'ai été chanceux, j'ai été capable de faire 3 matchs au marbre. Une anecdote que je me souviens très bien, c'est quand j'ai arbitré les Dodgers. C'est Steve Yeager qui est receveur. Puis là... le match continue tout, puis on arrive à 6e ou 7e manche. Il change de lanceur, puis là, il amène un lanceur qui lance la knuckleball.
Charlie Huff.
Charlie Huff, exactement. Je me rappelais le nom de famille Huff. Là, Steve Yeager, il s'en va dans l'abri des joueurs, puis il revient avec son... Moi, je l'appelle un backstop. Là. Le gant était tellement gros, je le vois encore... Là, il dit à moi, il dit, « You did not see nothing yet. » En voulant dire, « T'as rien vu, mon ami. Check bien ça. » Là, je la vois, ah, oh, quel souvenir. La balle, là, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça avec une balle de baseball.
Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Êtes-vous capable de me décrire ce que vous avez vu?
Ben c'est parce que même lui, Steve Yeager, qui fait le signal de knuckleball à Charlie Huff, il sait pas où est-ce qu'elle s'en va, la balle. Puis lui, il a un plastron, puis il a une mitaine. Mm-hmm. Mais moi, je suis en arrière de lui, puis j'ai rien, là. Faut que je me cache les mains pour pas me faire frapper, puis tout. Mais on ne sait pas où est-ce qu'elle va, la balle.
Ça s'en va n'importe comment, hein, c'est
non,
ça?
C'est incroyable. J'ai jamais vu d'autres personnes lancer ça, surtout pas au niveau junior.
Mais oui, oui.
Mais c'était toute une expérience. Une autre expérience dans cette même partie-là. Ron Say est au bâton, le petit numéro 10, là, je me rappelle. Là, il y a une balle, le coin extérieur, je l'appelle prise. Il me regarde en arrière, puis en anglais, il me dit, tu l'as appelé la décision trop rapidement. Tu sais, don't call it too soon. Oui, je pensais que j'étais correct. Elle rentre dans la mitaine, paf, un, deux, prise. Mais peut-être ce coup-là, je l'ai fait trop vite. Là, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Le prochain lancé, exactement à la même place, Ron Say fait une fausse balle dans l'abri des Expos. Puis là, la balle était presque passée le marbre, là. Mais lui, avec son œil de lynx, il est capable de la frapper dans le dugout des Expos. Là, il recule, puis il me dit, You see what I mean? Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Même la balle passée le marbre comme ça, je suis capable encore d'y toucher. Fait que ça, c'est quel souvenir de Ron Say, là. Ça, c'était incroyable.
Il avait un œil vraiment exceptionnel,
Ben
lui-là, là.
oui, puis pour pouvoir la frapper un coup qui a dépassé presque dans la mitaine du receveur, ça a été des beaux souvenirs. Il y a eu une fois aussi avec les Expos, c'était Dick Williams qui coachait dans le temps. Il y a une balle qui a frappé le pied d'un joueur adverse. Puis là, il dit check the ball, tu sais, pour un shoe shine qu'il appelle, là.
Oui.
J'avais vérifié la balle, tant que moi, je pouvais pas voir plus que ça, mais j'avais loué le but, le premier but parce qu'il avait été touché par la balle. Mais à part
Ouais.
de ça, il n'y a pas eu d'autres incidents.
Là, ça s'est terminé. Bon, votre aventure d'arbitre, quand je dis vous, c'est tout le groupe de Québécois avec Dick Tremblay, à quand ça s'est réglé avec les arbitres,
C'est ça.
bon, à peu près au tiers de la saison. Là, l'année suivante, marqueur officiel jusqu'à la fin de l'histoire des Expos. La première question que j'ai le goût de poser, c'est combien de parties Michel Spinelli a manqué pendant ces années-là?
Combien de parties j'ai marquées?
Manqué.
Manquées.
Pas beaucoup, hein?
Pas beaucoup parce qu'on était deux marqueurs officiels à Montréal régulièrement. Fait que quand il y avait, exemple, 12 matchs pendant un séjour, on en faisait 6-6, plus souvent qu'autrement. Fait qu'en tout, sur 81 matchs, il y a une année, j'en faisais 41, l'autre
OK.
année, j'en faisais 40.
Je pensais que Michel Spinelli était assigné à tous les matchs.
Non,
C'était pas
non,
ça,
non,
là.
non, ça aurait été assez
Oui.
stressant, surtout une série de 10 jours là, à Montréal, là, tous les soirs, là, c'est quand même beaucoup de pression, là. Tu sais, les gens disent, oh, il est là, il marque et tout, mais en arrière de nous, de la façon qu'on était placé au Stade olympique, il y a toujours l'équipe visiteur qui est derrière toi. Fait que ça mettait une pression de plus. Puis au baseball majeur, la façon que ça fonctionne, s'il y a un jeu qui arrive qui est douteux, ben, l'équipe visiteur peuvent téléphoner, mais ils peuvent pas parler directement avec le marqueur officiel. Autant l'équipe visiteur que l'équipe receveur. Eux doivent parler avec le relationniste. Cette personne-là, entre les manches, pas pendant la manche, mais entre les manches, c'est comme un règlement non écrit, mais observé. Puis là, entre la manche, ils vont revenir te voir, puis on dit, on a eu un appel de l'abri des joueurs. On dit, Tommy Helm, qui jouait pour Saint-Louis, il n'est pas d'accord sur l'erreur que tu as donnée. Parfait. Je lui réponds, je vais réviser à la fin du match. Parce que, pas comme les arbitres, les marqueurs, on avait 24 heures pour changer de décision. Ce qui était très, très bon. Fait qu'aussitôt que lui, il part, moi, j'appelle le tableau indicateur, je lui dis, tel jeu qui vient d'arriver, la balle frappée par X à Tommy Helm, prends note de la bobine. Là, lui, au tableau indicateur, il prend note de la bobine. Je reviens à la fin du match, on va l'examiner. Ça, c'est la façon de procéder.
Là, une question qui me vient à l'esprit, parce que là, tous les matchs sont télévisés.
Tous.
C'était pas le cas à l'époque, mais est-ce qu'à l'interne, vous aviez accès à des...
Oui, à
Oui?
l'interne, c'est l'équipe locale qui était responsable
De filmer le
de
match, dans le
filmer le
fond.
match au complet. Ça, c'était comment est-ce qu'on dit ça? Un règlement de la Ligue nationale. Là, comme vous voyez souvent, là, Les instructeurs font un appel sur tel jeu, puis toi-même, tu les fais les matchs, tu les vois, là, tu sais. Puis là, ils vont visionner à New York, là, puis ils regardent, puis.
Là, Michel Spinelli, t'arrives en 80. 81, c'est les séries.
Oui.
Ça, c'est une pression supplémentaire, ça.
Ça, c'est une grosse pression. En 81, quand on a fait les séries, il y avait contre les Dodgers, entre autres.
Phillies et Dodgers.
Oui. Phillies, j'ai fait les matchs à Montréal, mais j'ai eu l'opportunité d'aller faire les matchs à Philadelphie aussi. Parce que dans les séries, les deux marqueurs, le marqueur de Montréal et le marqueur de Philadelphie, font le match ensemble. Puis là, on vient à un compromis, puis on décide. Puis à Montréal, moi, j'annonce. À Philadelphie, lui annonce. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Là, moi, j'ai voyagé avec l'équipe à Philadelphie, ce que j'avais jamais fait. Quelle belle expérience. Mais là, on gagne le match à Philadelphie. Puis là, moi, j'ai aucunement d'idée que je m'en vais à Los Angeles, là. J'ai mon linge, presque mon linge d'hiver. J'ai pas de linge d'été pour m'en aller à Los Angeles. Puis comme de fait, on s'en va à Los Angeles. Mais moi, j'ai des amis de notre famille qui demeurent à Los Angeles. Fait qu'au lieu d'aller l'acheter à l'hôtel que l'équipe avait, moi, le premier soir, j'ai été couché chez des amis. Puis là, eux, ils m'ont accommodé avec du linge d'été en bon français, là. Puis là, j'ai retourné rejoindre l'équipe. Puis en tout cas, quelle belle expérience.
Est-ce que ça, il y avait une pression supplémentaire ou pas du
Aucunement,
tout? Non.
aucunement. Parce que déjà, dans l'année, j'avais fait une quarantaine de matchs. Puis on le faisait à deux, là. Tu sais, la personne qui l'a fait avec moi, justement, cette valeur, je n'ai pas remarqué son nom, mais il est décédé, ça fait à peine 3-4 mois. Lui, il est impliqué beaucoup dans le football américain, la NFL. Il était commentateur à tous les matchs de NFL quand ils font la tribune. Anyway, quel personnage. Puis on s'est entendu, nous autres, là, tellement bien à Los Angeles. Puis quand il est revenu à Montréal lui-même là, pour les derniers matchs, notre fameux circuit de Rick Monday, là.
Qui hante encore pas mal de partisans des Expos,
Ben,
là.
c'est ça, c'est
Ouais.
ça.
Ça s'est terminé jusqu'en 84. Est-ce que tu étais là pour le tout dernier match de
En
l'histoire des Expos?
2004.
En 2004, c'est-à-dire,
Oui,
ouais. Tu étais là pour le tout dernier match.
tout dernier match, oui. Ça a
Ça.
été difficile.
Ouais, hein.
les deux dernières années, j'ai été encore très opportuniste d'aller à Porto Rico. Deux saisons, 2003-2004.
C'est Michel Spinelli qui était le marqueur officiel à Porto
Oui,
Rico.
à Porto Rico, ben, Michel Spinelli. Ils ont eu, en tout, je pense qu'ils ont fait cinq voyages ou six voyages à Porto Rico. J'en ai fait quatre sur six. Les deux autres, c'est Serge Rivet, notre ami de Verdun, là, que lui, il avait remplacé à un moment donné. J'oublie son nom. J'ai de la misère avec les noms.
Non, mais ça fait aussi quelques années quand même, là. Parlez tantôt des récriminations de certains joueurs, puis ça se faisait par l'entremise
Du
du
relationniste.
relationniste. On a entendu des histoires de joueurs qui sont adressés directement au marqueur officiel.
Oui, mais moi, les années, j'ai été là, j'ai été vraiment respecté. Puis c'est drôle, j'ai vu dernièrement mon ami, il travaille pour les Carabins, là. Il est annonceur maison pour le Carabin, là.
Il y a Monsieur Montpetit,
Non,
Bruno.
pas Bruno. En tout cas, je l'ai vu, lui, puis mon frère était avec moi, puis j'ai été voir la partie des Carabins, puis il dit. Ça, c'était un de nos meilleurs marqueurs à Montréal, tu sais. J'étais content de recevoir cet hommage-là, tu sais.
Encore impliqué dans le baseball.
Oui.
Je veux t'entendre, Michel, sur le travail des arbitres dans le baseball d'aujourd'hui. Tout a changé. Le baseball a évolué. Tous les sports ont évolué. La position d'arbitre a évolué. Et je suis sûr que, Michel, tu regardes comment ça se passe, là.
C'est difficile à accepter, là, tu sais, parce que on dirait que tout est contrôlé par les reprises, là, tu sais, c'est, oui, ils font leurs décisions puis tout, mais on dirait qu'ils font pas l'effort que nous autres, il fallait faire dans le temps, là, tu sais. C'est l'impression que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui montent rapidement dans le baseball majeur. Parce que si on regarde les noms, là, il reste plus grand vieux là-dedans.
Il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite au cours des 2 dernières années, là.
Oui, puis ça, c'est peut-être à cause de l'image que l'arbitre a envers la décision qui est prise. Tu sais, on lui donne moins de responsabilité parce que si un jeu qui est controversé, tout de suite, on va à la
La
reprise.
bonne décision va être rendue.
Exactement. Mais moi, je trouve que ça enlève un peu de valorisation à l'arbitre lui-même. Tu sais, il y en a eu des bons arbitres. Il y en a eu, puis
Mon collègue Marc, qui va absolument écouter cet entretien, mentionne que c'est pas facile d'être arbitre derrière le marbre aujourd'hui parce que là, ça s'en vient à des vitesses de plus en plus élevées. Les balles bougent n'importe comment, les lanceurs sont habiles. Être arbitre derrière le marbre aujourd'hui, là, c'est tout un défi, là.
oui, un méchant défi. Puis on regarde les matchs à la télé que vous et Marc,
Ouais.
vous nous expliquez, puis tout. Ils mettent toujours le fameux...
Qui n'est pas parfait, ce rectangle, la zone des prises virtuelles, c'est pas parfait, là.
Non, c'est pas parfait, mais je pense pas que ça va arriver, que ça va être ça qui va décider la balle ou la prise. Il y a des lancers qu'on regarde le match, puis moi, je suis chanceux, j'ai une grande télé à la maison. Puis je comprends pas des fois que le gars il a appelé ça une balle, là. Elle rentre à 95 000 à l'heure et plus, tu en as des lanceurs de relève à 102, 104, là. Autant que tantôt, j'ai dit que c'est devient plus facile au niveau majeur parce que les receveurs je bouge moins. Mais faut qu'il y ait capte la balle, là. Tu sais, il y a bien beau vouloir pas bouger, là, comme receveur, mais à 102 000 à l'heure, là, mon petit receveur des Blue Jays, là, Kirk, là, il est pas le plus petit du monde, là, hein, puis il faut qu'il pogne la balle,
On parle beaucoup du robot, la zone de prise électronique.
là.
Je
Ouais.
te vois grimacer, là, Michel, là,
Je sais pas. Ça l'enlèverait un peu l'intégrité du sport, là, personnellement. Là, t'sais, laisser ça à un robot de décision, là. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait du baseball. Là, je fais du softball. Tous des gens retraités, 50 ans et plus, puis tout. Puis nous, on a des règlements internes, là. Il n'y a plus de balles, il n'y a plus de prises, là, mais sauf que. Je pense pas que c'est la bonne façon de s'en aller, là, moi.
Même si on l'adoptait de façon partielle, parce que semble que ce soit là. Le frappeur qui pourrait peut-être demander une revision, un nombre limité, mais semble-t-il, ce serait une option.
Ça se peut que ça devienne de même. Je sais que les dernières décisions ou les règlements qu'ils ont faits, comme le 20 secondes, c'est excellent. Alors,
Oui, t'aimes
ça,
ça? Oui.
j'adore ça. Ça, il y avait beaucoup de pertes de temps. Le frappeur, elle doit demander juste un temps d'arrêt. Ça, c'est excellent. L'autre que j'aime moins, c'est deux lancers au premier but. Ça, j'aime moins ça, parce que ça donne vraiment une opportunité au gars de voler, d'en prendre un peu plus, puis de voler le but plus
Ouais.
facilement. Ça enlève beaucoup de... Pour le receveur, là, c'est un stress additionnel, là, parce que
Ouais.
le gars, il en prend... Au lieu de prendre 3 pas, il en prend 5, là. Oublie ça, j'ai pas de chance.
Ouais.
C'est...
Écoute, tu regardes encore le baseball. Comment
Ah.
tu aimes le spectacle du baseball d'aujourd'hui?
Bon.
Comme j'ai dit tantôt, tout évolue. Les athlètes, comme dans tous les sports, sont meilleurs. Est-ce que tu aimes encore ce que tu vois
Bon, j'aime toujours ça. Je suis dans la télé régulièrement, les Blue Jays. Je ne suis pas d'accord avec plusieurs décisions de leur manager, là. C'est surtout, il y a à peine une couple de jours, là, ils sont en 10e manche. Ils ont donné un but plus sur balle intentionnelle à Guerrero. Puis là, c'est notre receveur Kirk au bâton. remplace-le, puis fais un coup amorti, tu sais.
Ouais.
Non, il a fait une chandelle, puis ils ont sorti de la manche pas de points, puis la manche après.
Ouais.
Qu'est-ce que l'autre équipe font avec deux coureurs ses buts, un coup retenu? T'sais, pourquoi qu'eux peuvent le faire? Puis, t'sais, le
Ouais.
baseball a vraiment, vraiment changé. Mais j'aime le baseball d'antan, moi, quand tu faisais
Ouais.
avancer le coureur puis tout. Oui, on disait que ça, c'est plus la Ligue nationale que la Ligue américaine, mais tant qu'à moi, le baseball, c'est le baseball, là, t'sais.
Ouais. Mais t'aimes encore le spectacle quand même
Ah,
que
j'adore,
ouais.
puis j'aime vous écouter à la télé.
Ouais.
Les commentaires sont très bons, puis continuez votre bon
Ouais,
travail.
ben Michel Spinelli, merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps-là. C'est vraiment plaisant de t'entendre de parler de ce que tu as vu sur le terrain pendant qu'on parle de 50 ans et plus
Oui,
de
oui.
baseball, là. Merci d'avoir partagé ces souvenirs-là.
Merci.